Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre à l'écoute de Radio Foot International, deuxième édition en direct après un sacré match. Mais match nul à Munich entre le Bayern et le Real Madrid pour cette demi-finale de Ligue des Champions 2-2. Après la rencontre, buteur de la soirée, le roi Sané et Harry Kane, qui a inscrit son 43e but de la saison avec donc le Bayern Munich. En réponse des Merengues, un doublé de Vinicius, le Brésilien. Et tout se décidera sur la pelouse de Santiago Bernabéu à Madrid mercredi prochain. Autre demi-finale demain soir et les Parisiens déjà dans la roue. Le PSG à 24 heures de son match contre le Borussia Dortmund a pris la température dans le stade où il jouera demain. Cédric De Oliveira est déjà sur place et nous l'appellerons. La Ligue des Champions avec une dernière confrontation, Olympique Lyonnais FC Barcelone, ce sera samedi prochain à Bilbao, une 11e finale pour les Lyonnaises qui ont écarté le Paris Saint-Germain et la 3e pour les face aux Barcelonaises. Celles-ci ont écarté Chelsea à Londres, ce sont les tenantes du titre. La meilleure joueuse du championnat de France s'appelle Tabitha Chawinga, elle est native du Malawi. Nous avons un merengue dans la place. Rémi, je vous trouve... Ah oui, avec votre maillot, je n'avais pas remarqué pendant le match. Rémi, vous êtes souriant ?
Oui, mais moi je suis souriant.
Pas vraiment là. Bonsoir d'abord.
Comment vous voulez que
bonsoir Rémi.
Ah, bonsoir Annie et bonsoir à tout le monde.
Bon,
de
ben
toutes les façons,
dire,
si le Real continue à être invincible, pourquoi ne devrais-je pas être souriant ?
C'est vrai. Alors on va en parler de ce Real Madrid et de ce match fou. Naïm Moniol, bonsoir.
Salut Annie, salut à tous.
Tout va bien ?
Ah bah oui, j'ai un beau match de foot, tout va bien.
Exactement, c'est ce qui s'est passé. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission. David Brocouet est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti. Bon ballon à négocier pour les Leroy Sané. Sané s'infiltre. Il réveille la colère du Bayern. Superbe Leroy Sané. Moussiala s'infiltre. En slalom, penalty. Vinicius, Neuer. Vinicius, la force de l'habitude. Le Real reste le Real et revient toujours de partout.
Pas de vainqueur, donc tout reste à faire dans après cette première demi-finale entre le Bayern Munich et le Real Madrid. Ils se sont neutralisés sur la pelouse bavaroise à l'issue d'un grand match de Ligue des Champions. Intense, tactique, Vinicius a ouvert le score. Réponse immédiate ou quelques minutes après de Leroy Sané sur un superbe but. Et puis deux pénaltys incontestables signés Harry Kane et réponse à Vinicius. En tout cas, les Merengues sont invaincus cette saison en Ligue des Champions. Écoutons Aurélien Tchouaméni au micro de nos confrères de Canal+.
Je pense qu'on a fait un bon match. On aurait pu faire mieux sur pas mal d'aspects du jeu, mais c'est pas facile de venir ici contre cette équipe du Bayern. Même s'ils sont dans une situation un peu compliquée en championnat, on sait que la Champions League, c'est fait pour les grands joueurs. Ils ont une équipe avec énormément de grands joueurs, donc forcément, on s'attendait à un match difficile. C'est ce qui s'est passé. Après, on a cette force-là collective de tout donner jusqu'à la fin. C'est sûr que le début de la deuxième mi-temps ne s'est pas passé comme on le voulait, mais on a réussi à revenir et maintenant, rendez-vous Bernabéu.
Rendez-vous évidemment à Bernabéu. Avant, Rémi, comment avez-vous trouvé cette rencontre ? Le score est équilibré. Est-ce que le match était équilibré ?
Le match était équilibré. C'est vrai que le Real a flanché juste dans les 11 premières minutes. Il faut se dire que les joueurs manquaient encore de repères et manquaient même d'agressivité, de tonalité, de tonicité.
On avait donc, la sensation qu'ils faisaient le dos rond, en fait, un peu la tortue.
Voilà. Hein. Donc, mais après cela, il faut savoir que le Real a contrôlé le match. Et le Real a fait beaucoup mal chaque fois qu'il voulait vraiment faire mal. Parce que les gens oublient quand même, on va dire, oui, le Bayern a eu des occasions. Mais il faut savoir que, également, quand le Real lui prend la balle, c'est pour marquer. Donc, vous avez pu voir d'ailleurs que c'est Neuer qui sauve même le Bayern avec une parade sur un tir de Kroos à la 51e minute. Vous avez pu voir comment est-ce qu'il a gagné le face-à-face avec Vinicius. Donc, quand même, vous regardez que Neuer a fait beaucoup plus d'arrêts que Lounine aujourd'hui.
Naïm, sur la tonalité d'abord générale de ce match, comment le voyez-vous ?
J'ai vu le match que je m'attendais à voir, c'est-à-dire un Real Madrid qui, dans un premier temps, laisse le ballon au Bayern pour...
Attentiste un peu.
Pas attentiste, parce qu'attentiste, c'est presque un défaut. Moi, je pense qu'ils sont davantage dans le calcul. Ouais. C'est un match qui m'a fait beaucoup penser au match retour face au PSG il y a 2 ans, quand, avec le fameux triplé de Benzema en 3 minutes, où on pensait qu'ils allaient se faire manger très rapidement. Puis où finalement, ils sont sortis progressivement en piquant. Avec une action, avec un décalage, une accélération, un contre. Et puis finalement, ils ont réussi à... Alors, je ne vais pas dire à contrôler le match, parce que le Bayern a quand même eu beaucoup plus la possession, beaucoup plus de situations, même si on peut regretter le déchet du Bayern. En tout cas, souligner le déchet du Bayern compte tenu de la possession et des situations qu'ils ont eues.
Ils peuvent le regretter, parce que c'était en 12 minutes, il y avait eu 5 grosses occasions et puis il y a quand même aucune conclusion.
Sur les coups de pied arrêtés, le Bayern a pris tous les ballons de la tête au Real, mais le Real l'a montré contre City, le montre d'ailleurs tous les ans depuis maintenant plusieurs années. Il ne perd jamais, en tout cas ces matchs-là très rarement. Et j'ai vu le match.
Ils ne supportent pas la défaite, hein. C'est un peu.
Oui,
toutes les
équipes supportent la défaite à ce niveau-là. Ils veulent tous gagner, surtout en demi-finale de Ligue des Champions. T'es quand même plus très loin de la gagner.
Donc, non, mais même Carlo Ancelotti,
c'est un jeu très létal qui n'est pas propice à l'ultra-domination, à l'ultra-possession, ni à avoir 50 occasions, mais c'est une efficacité tellement efficace, c'est le cas de dire, c'est tellement létal que cette équipe-là est imprévisible.
Mais on les a vus, on a vu le Bayern de Munich, après le premier but, il avait pris un coup sur la tête, ils avaient du mal à réagir,
La différence entre la première et la deuxième mi-temps, c'est l'efficacité, parce qu'en fait, les 10 premières minutes de la deuxième minute, de la deuxième mi-temps où le Bayern marque, c'est exactement les 10 premières minutes de la première mi-temps.
En gros, oui.
Sauf qu'en gros, la différence, c'est l'efficacité, parce que le Roi Sané change de côté, qu'il est plus fort quand il est sur le côté droit et qui rentre sur son pied gauche que quand il est à gauche, parce que je pense que l'entrée en jeu de Guerrero a créé un point d'équilibre au milieu qui a permis de jouer beaucoup plus sur les côtés, ce que faisait pas le Bayern très peu en fait en première mi-temps, et beaucoup de densité dans l'axe. Il y avait un paquet de joueurs, ce qui a permis à des joueurs comme Rudiger notamment ou Tchouaméni de mettre plus d'impact et de contrôler le Bayern Munich. Et on a Harry Kane a été très peu en vue dans la zone de vérité, finalement on l'a vu, mais quand il se déplaçait, quand il redescendait très bas. En deuxième mi-temps, il y a eu une meilleure utilisation des côtés, plus de centres. Et on va dire que c'est là que la différence s'est faite sur l'efficacité, tout simplement.
Rémi, il y a le premier but de Vinicius qui part seul et qui réussit son face-à-face face à Neuer. Ensuite, on a le but de Leroy Sané qui est, alors ça sera en deuxième mi-temps, en début, et qui est un très joli but. Parce que Leroy Sané, ces derniers temps, pas ces derniers temps où il s'est beaucoup amélioré, mais on se souvient d'un joueur un peu irrégulier. Et là, il a marqué un très très joli but. Alors sans doute grâce à ce qu'a dit Naïm, ce changement de côté et ce changement tactique qu'effectue quand même Tuchel à la mi-temps.
Il a marqué un beau but, mais on ne peut pas le mettre au niveau de Vinicius, qui a été dans tous les bons coups et qui a usé la charnière de Bayern à part des appels et contre-appels. Et d'ailleurs, quand vous essayez de voir aussi au niveau de la finition, Vinicius est aujourd'hui quand même presque une légende.
Oui, mais je ne compare pas, je voulais juste parler de Leroy Sané.
Je voulais juste aussi vous rappeler que non seulement Vinicius marque aussi ses pénalties avec un sang-froid devant un Neuer qui est énorme, mais il faut souligner une chose, c'est que Vinicius est déjà à 82 buts avec le Real Madrid. Vous connaissez le meilleur Brésilien qui dépasse Vinicius, c'est
Ronaldo,
R9, avec combien ? 103 buts. Donc, pratiquement, Vinicius, qui a 23 ans,
Rémi, il y a de plus en plus de matchs. C'était le 48e pour le Real.
Non, mais attendez. Mais quand même, on vous dit qu'il a 23 ans et on vous dit qu'il n'est pas avant-centre. Il n'est pas avant-centre.
Le Roi Sané, c'est toujours particulier de parler de manque de régularité. Le Roi Sané, à Manchester City, chaque fois qu'il joue, moi je me rappelle d'une statistique, à l'époque j'étais sur RMC, chaque fois qu'il jouait, Manchester City gagnait. C'est un joueur qui est efficace, mais qui ne participe pas au jeu collectif. Probablement
mais Manchester City l'a pas gagné, et elle l'a pas gardé, et quand il est arrivé au Bayern, c'était un peu compliqué.
Probablement, si vous me laissez terminer, probablement parce qu'il n'a pas l'attitude qui va avec le talent. Je pense que Vinicius est un garçon très sérieux, qui a énormément progressé. Il faut se rappeler que Vinicius, il y a 4-5 ans, c'est quand même un garçon qui court et c'est tout. Il a énormément progressé avec le ballon, dans l'efficacité.
Notamment
Ancelotti, les joueurs aussi qui sont avec lui. Parce que je pense, et voilà, justement, le fait qu'il soit sérieux, il a permis de progresser. Le Roi Sané a peut-être plus de talent brut, mais je peux dire qu'il est ingérable, mais il a c'est très compliqué relationnellement avec à peu près tous les entraîneurs qu'il a eu. Et en plus, un garçon qui est souvent blessé physiquement.
Oui, mais qui est en progrès, on a l'impression, ces temps-ci. Plus régulier peut-être, un peu plus qu'avant.
Oui, plus régulier, mais son parcours au Bayern est quand même très contrarié. Quand on voit le talent qu'il a au départ, on se dit qu'il mériterait une autre carrière quand même.
Est-ce que le Bayern peut s'en vouloir ce soir de ne pas avoir gagné à domicile ce
premier
match ?
Évidemment qu'il peut s'en vouloir. Il a combien, 2-3 occasions franches dans le premier quart d'heure de la première mi-temps, il prend tous les coups de pied arrêtés de la tête, il y a des mauvais choix notamment de Mazraoui sur les centres. Bon, on peut peut-être regretter certains décalages, peut-être aussi certains excès d'individualité. Je pense à Gnabry en fin de match quand il est rentré, qu'il a voulu, il a tiré, c'est passé 15 mètres au-dessus. Oui, ils peuvent regretter parce que globalement le Bayern a la domination. Je pense qu'il y a plus de situations de but, même si c'est vrai que Neuer fait 3 gros arrêts, il a quand même plus de situations du côté du Bayern. Et aller gagner à Bernabeu, le Bayern peut le faire, hein. Attention, il y a des équipes qui vont gagner au Bernabeu, c'est quand même pas ce qu'il y a de plus facile à faire. Et puis le Real,
on entendait tout à l'heure Aurélien Tchouaméni dire bon ben on verra la semaine prochaine à Bernabeu.
Quand vous perdez,
le
Real a perdu 2 matchs cette saison, c'est-à-dire que c'était la saison où on les annonçait terminés,
et pas en Ligue des Champions.
C'est la saison où on les annonçait une fois de plus cuits, fin de cycle, peu de recrutement, combien de blessés, Courtois, Militao, Alaba sur les 2 premières, plus Arda Güler qui est arrivé plus ou moins sur une canne. Donc on se dit, bon, ils perdent 3-4 joueurs dans les 2 premiers mois, ils vont être champions d'Espagne et ils sont en demi-finale de Ligue des Champions. Donc bon.
Rémi, que pour le, alors on dit que pour le Bayern, c'est quand même, ils peuvent s'en vouloir de ne pas avoir gagné sur leur pelouse. Ils partent, donc tout est à faire. Pour le Real Madrid, c'est un bon résultat ce qu'ils ramènent, ce 2-2 de Munich.
Oui, bien sûr, c'est un bon résultat. D'abord pour Carlo Ancelotti, qui prouve quand même qu'il n'a jamais perdu contre le Bayern. C'est 9 matchs, 6 victoires et puis 3 nuls.
Et depuis son époque du Milan en plus.
Oui,
c'est comme ça. Il n'a jamais perdu.
Jamais perdu. Et au-delà de ça, il faut savoir que ce Bayern était très très dangereux. Parce que les gens oublient que le Bayern, certes, a raté son début de saison. Mais lorsque vous regardez les derniers matchs du Bayern, eh bien, c'est 17 buts dans les 5 derniers matchs. Donc, et puis, ils ne prenaient même plus de buts parce que les 3 derniers matchs, ils n'ont pris qu'un seul but. Et là, ils se retrouvent en train d'encaisser 2 buts chez eux. On peut quand même se dire que même si ce Bayern, bon, les gens vont seulement regarder que non, le Bayern est malade, mais vous avez vu, ils ont filé les 5-1 à Union Berlin et tout et tout. Moi, je dis, ce que le Real a fait, être bien dans la mesure où je peux vous rappeler par exemple que un match du Real à l'extérieur contre Leipzig, mais le Real a subi et que l'Union avait fait presque 9 arrêts, comme exactement contre Manchester City. Or, quand vous arrivez quand même au Bernabeu, oui, je sais que une fois le Bayern a fait 2-2, mais au Bernabeu, c'est le Bernabeu. Et là encore, je crois que nous avons
le Real en plus a montré la dernière fois que même à égalité, en allant à Manchester City dans un endroit citadelle un peu imprenable, c'est là qu'ils se sont qualifiés.
Gagner,
donc c'est vrai.
Ne pas perdre des matchs que l'on ne peut pas gagner est une qualité fantastique dans le football. Tout le monde ne peut pas le faire, et même des grandes équipes. Mais là où le Real est très bon ce soir, c'est qu'il joue sans Carvajal, il y a Vasquez. Qui est pas bon ce soir, ni dans l'apport offensif, c'est lui qui concède la faute sur
exactement
le penalty de Kane.
Ouais.
Ferland Mendy est pas très bon, il laisse énormément d'espace dans son dos, le but de Leroy Sané vient de là-bas.
Ouais.
Tchouaméni, comme d'habitude, il est neutre. C'est-à-dire qu'il est jamais foncièrement
mauvais.
Ah, mais
il n'est pas vraiment au poste.
Oh, il a fait quand même une bonne heure au milieu défensif, donc oui. Il était plus ou moins son poste. Il n'est jamais foncièrement mauvais, mais il est rarement très bon non plus. Valverde passe à côté de son match. C'est-à-dire qu'en fait, on a quand même eu une équipe du Real, et il n'y a pas 50 solutions sur le banc. C'est-à-dire, quand vous avez fait rentrer Rossellou, vous sortez Rodrigo pour faire rentrer Rossellou, vous perdez au change. Quand vous faites rentrer Brahim Diaz à la place de Bellingham, vous perdez au change. Quand même Bellingham n'est pas fait une grande partie. Donc, ils arrivent encore avec peu de turnover, des joueurs blessés, à aller faire 2-2, en ayant en plus des situations de but sur la pelouse du Bayern, qui, quand bien même il n'est plus champion d'Allemagne, et tant mieux pour le foot allemand, reste quand même une valeur sûre du football européen.
Le Bayern, ce soir, avait quand même une défense un peu
sans gaucher.
Expérimentale.
Sans gaucher.
Alors, vous l'avez signalé avant même le coup d'envoi.
C'est vrai que la particularité, avec les blessures d'Upamecano et de Ligt, c'est qu'il a fait jouer Kim avec d'ailleurs, qui sont deux droitiers, et qu'il a basculé un arrière-droit Mazraoui côté gauche, puisque Alphonso Davies ne joue plus pour des raisons contractuelles, ils ne veulent plus le faire jouer puisqu'il n'a pas prolongé. Il devrait en plus aller au Real Madrid, alors rendez-vous compte, ils ne vont pas l'utiliser comme ça. Donc ils ont joué avec une charnière centrale, je ne vais pas dire expérimentale parce qu'elle a déjà été expérimentée, mais oui. Pas au niveau. Kim rate complètement son match. Complètement. Hein.
Bien à la fois dans le jeu. Le penalty qu'il cède sur Rodrigo.
Ah bah c'est lui qui fait le penalty sur Rodrigo. C'est lui qui est en retard sur le premier but de Vinicius. Sur l'action de Vinicius qui amène l'action de Kroos, c'est lui qui est aussi en retard. Donc il rate complètement. Mazraoui a peu d'apport offensif. Probablement parce qu'un droitier à droite, il n'arrive pas à centrer côté gauche. Donc s'il se remet sur son pied droit, il perd du temps. Ça permet au Real de revenir. Et en plus, Goretzka n'est pas gaucher. Donc en gros, il y avait zéro gaucher sur le côté gauche au Real Madrid, au Bayern Munich. Et ça s'est senti. Donc défense expérimentale. En difficulté, notamment avec Kim sur le placement, dans les duels. C'était mieux avec l'entrée de Guerrero. Ça a permis d'avoir un point d'appui au moins gaucher au milieu et de pouvoir faire un peu bouger les lignes et d'animer les côtés. Mais c'est vrai que ça a été souvent le cas, et même sur les côtés. D'ailleurs, le cas Kimmich a été un cas très compliqué au Bayern cette année. Il a été d'abord utilisé comme milieu de terrain.
Ça, c'est Tuchel qui n'a cessé de
pression,
le faire changer.
Sous la pression de la fédération et des anciens qui ont dit « Coco, il y a un euro à la fin de l'année, il faut peut-être le mettre à droite parce que nous, à droite, on est ric-rac à pas prendre des joueurs à Leipzig ou à Cologne ou à Francfort. » Donc, il est reparti. Il a fallu trouver un autre joueur. Alors, Sabitzer peut aussi faire le job, mais voilà, ça a été compliqué tout au long de l'année au Bayern. Et démarrer une demi-finale de Ligue des Champions face au Real Madrid sans un gaucher ni en axe gauche ni en latéral gauche, c'est osé. C'est très osé.
Ça n'a pas bien payé.
Mais moi je crois que Tourelle a fait un coup tactique et qu'on sait que le Real a un déficit au niveau de la taille. D'ailleurs, Kim nous a créé beaucoup de problèmes en ce qui concernait justement les coups de pied arrêtés, surtout. Et oui, c'est ça. D'ailleurs, vous avez pu voir que ils ont raté pratiquement deux occasions, ou plutôt Lunina a fait deux arrêts parce que on était bouffé pratiquement toujours sur la hauteur. Parce que quand même sur les coups de pied arrêtés offensifs qu'on a eu. On n'était pas dangereux parce que on n'avait que Rüdiger qui pouvait rivaliser avec eux. Donc, sur ce coup-là, c'était un coup tactique. Il a vu que ce côté-là, le Real devait être en mal. Donc, pour moi, je me suis dit, il a réussi. C'est vrai que Kim, il commet deux fautes. Mais il faut aussi savoir que, de la même façon, si les buts du Bayern sont arrivés également, c'est deux fautes défensives. C'est-à-dire que parce que vous avez Lucas Vazquez, qui est un ailier droit, qui joue quand même à cette position-là. Mais moi, je crois que le Bayern a eu beaucoup plus d'impact au milieu du terrain quand il y avait même Goretzka. Et à une certaine période, quand vous avez vu le Real ressortir, le Real était à une possession de 32%. Quand ils ont enlevé la densité au milieu du terrain, vous avez vu le Real devenir encore beaucoup plus agressif.
Plus d'impact au milieu parce que Kane, Müller, Musiala redescendaient dans le cœur du jeu pour amener de la densité. Il y a un truc qui était très, très flagrant en première mi-temps, c'était l'espace qu'il y avait entre les lignes au Real Madrid. Bellingham, par exemple, jouait à peut-être 10-15 mètres de Vinicius, là où Harry Kane et Musiala étaient quand même très près de Leimer, qui a fait un match match monstrueux, Leimer. Alors, c'est pas le plus connu du Bayern, mais alors, je peux vous dire que lui, fantastique dans tous les domaines. Il y avait peut-être un groupe plus compact, un bloc plus compact du côté du Bayern, là où le Real est très, très espacé. Mais ça lui a aussi permis de jouer très rapidement en transition. Le premier but, on est la parfaite illustration, hein, je veux dire, entre Kroos et Vinicius, ils font deux touches de balle sur 70 mètres. Hein. Mais je pense que le Bayern a été plus fort.
Ça, c'est l'œil de Kroos.
Justement,
c'est
l'expérience. Je voulais revenir au laser. Kroos, ancien joueur du Bayern, mm-hmm. qui est parti du Bayern en 2014, hein, ouais. il y a une dizaine d'années, après le triomphe de l'Allemagne en Coupe du Monde. Il était parti pas très bien avec le club. Et
comme
tout,
beaucoup on de a joueurs vu... qui quittent le Bayern, c'est bizarre.
Ouais.
Hein. Fou.
Hein. Et on l'a vu quand même se mettre en valeur plusieurs fois dans le match, et notamment cette passe, Rémi. Et alors, c'est marrant parce que Modric en fera une plus tard quand il rentre pour le remplacer. Ouais. Et bon, elle sera un peu gâchée par Vinicius. Finalement, elle n'arrivera pas à marquer.
Mais c'est vrai que fait un arrêt.
Ce sont deux joueurs qui sont incroyables sur les passes en profondeur pour des joueurs comme Vinicius.
Et ce qui est terrible, c'est que Kroos, on l'a eu presque gratuit, et à peu près comme on a aussi eu Modric, et c'est des joueurs qui n'ont pas coûté cher au Real.
Et que vous ne mettez pas à la retraite finalement.
On ne les met pas à la retraite. Et aujourd'hui, si vous avez constaté, c'est qu'il jouait beaucoup haut. Et le Bayern sait qu'il est beaucoup plus latéral au niveau de ses passes, mais il a cherché toujours la profondeur. C'est vrai que quand il a sollicité, malheureusement, quelqu'un comme Lucas Vazquez n'a pas réussi à faire des centres, et pourtant, il était toujours libre. Donc, j'ai trouvé, et d'ailleurs, je ne voulais pas pour une fois, j'ai trouvé qu'il ne fallait pas qu'il sorte dans ce match-là parce qu'il avait encore de l'énergie. Bon, c'est vrai que quand Modric est quand même arrivé, il a apporté quelque chose, une certaine stabilité, mais revenir souvent plus bas, Kroos, c'était beaucoup plus utile. Mais
la particularité sur un match comme ça, c'est que le Bayern joue tellement haut qu'il y a de l'espace dans le dos du bloc, dans le dos de la défense, et que Kim est tellement mal aligné avec d'ailleurs qu'en fait les mecs sont jamais hors jeu. Vinicius, il a jamais été signalé hors jeu. Mmh. Ils ont toujours été couverts parce que c'était mal aligné derrière. Alors un bloc qui est haut et une défense qui s'aligne mal, quand vous avez des garçons comme ça qui sont les meilleurs du monde dans le jeu long.
Vinicius avait une vitesse bien
oui,
plus
rapide. Oui, puis en plus il est ultra rapide, hein, ouais, c'est beaucoup plus rapide. Hein, donc,
Quand on dit le Real refuse la défaite, qu'est-ce qu'on veut dire par là? On entendait nos confrères commenter ce genre de choses. Est-ce que c'est par exemple les changements qu'effectue Carlo Ancelotti quand il fait rentrer notamment Brahim Diaz, quand il sort Bellingham, quand il fait rentrer finalement du 109, Rémi?
C'est un ADN, et au-delà de ça, j'ai toujours dit que les matchs se gagnent à la fin, c'est-à-dire c'est le foncier. Zidane l'avait fait.
Le physique.
Et oui, Zidane l'avait fait avec le Real parce que Zidane avait justement aussi connu le Catenaccio. Donc il savait que au niveau du foncier, les dernières minutes sont importantes. Ancelotti est dans la même optique, la même gestion. C'est-à-dire
il est italien, je crois, d'ailleurs.
Voilà. Donc, il vous voit venir, il fait le dos de tortue, vous venez, vous butez, et au moment où vous croyez que le Real est en train d'être cuit, acculé, c'est là où le Real, lui, il sort, parce que lui, il va voir vos failles. Et quand vous regardez, c'est les mêmes changements qu'il fait. C'est-à-dire que il apporte mm-hmm. quelqu'un pour la hauteur.
Modric.
Bon, Rossellou, il ne sait pas, il ne sait pas contrôler. Mais bon, au moins, au niveau de la hauteur, il permet au bloc défensif de ne pas sortir. Et à côté de là, il met une mobilette. Donc, Brahim, et d'ailleurs, Brahim, vous avez pu constater comment est-ce qu'il était saignant à sa première prise de balle. Si, d'ailleurs, le Bayern commettait cette erreur de chercher le troisième but, c'est le Real qui marquait. Et c'est pour ça que, vers la fin, vous avez vu qu'ils ont temporisé parce qu'ils ont compris que maintenant, ce gars, il est en train de chercher justement la faille pour prendre la défense à revers. Donc, c'est pour ça que je dis que le Real, c'est une affaire tactique. Quand vous essayez de regarder tous ces matchs-là, on est parlé tout de suite de toutes ces statistiques-là, que voilà 47 matchs, voilà 47 matchs, vous constatez quand même que 48 matchs et qu'il n'y a que deux défaites.
C'était le 48e de la saison.
Il n'y a que deux défaites et que vous constatez qu'il y a 142 buts qui ont été inscrits. Bon, voilà, c'est beaucoup.
Naïm, surtout le Real Madrid, on voit les derniers matchs, ce sont des matchs nuls en fait, même en Ligue des Champions contre le Manchester City. Là, on se disait, bon, ils vont partir sur un 2-1, ils auront un but de retard. Non, Non, mais il y a toujours...
Cette phrase des commentateurs de dire « le Real Madrid refuse la
oui,
défaite ».
Non, mais c'est un cliché, mais justement, c'est pour ça que je veux le comprendre derrière, qu'est-ce qu'il y a
les,
de...
Les Portugais
qu'est-ce
d'Amiens en DH, ils veulent pas perdre non plus. Non, mais c'est la vérité, quoi. Ça, c'est des phrases un peu pompeuses de commentateurs. La vérité, c'est que Rémi a raison de souligner l'aspect foncier, parce que c'est une équipe qui a toujours bien fini ses matchs, le Real Madrid. Même il y a deux ans, quand
et
il
et justement, 48e match de la saison.
Là, aujourd'hui, les gens disent « mais vous vous rendez compte, le Real, il reste sur 4 matchs nuls consécutifs, il gagne pas ses matchs ». Mais il y a deux ans, quand ils ont gagné la Ligue des Champions, quand ils sont venus la gagner à Paris contre Liverpool, ils perdaient tous leurs matchs aller. Ils perdaient Chelsea, ils ont perdu City, ils ont perdu le PSG. Et au final, ils gagnaient le match retour à chaque fois en 10 minutes. Donc ce qui prouve bien que c'est une équipe qui
et grâce
a
à Benzema,
déjà
souvent
une dimension physique de très haut niveau. Ça, c'est vrai qu'ils terminent bien les matchs et c'est d'autant plus à souligner que leur effectif est court en nombre par rapport à beaucoup d'autres équipes. Et après, c'est une infinie confiance en leur jeu. Il y a un truc qui est toujours bluffant dans les matchs du Real Madrid. Vous voyez personne tenter l'exploit individuel. Vous prenez City, vous prenez le Barça, vous prenez le Bayern. Mené au score à 10 minutes de la fin, tout le monde veut être le héros. Au Bayern, au Real, tout le monde est collectif. Vinicius, il donne le ballon à Rodrigo, il peut tenter la frappe. Bon, Kroos et Modric, plutôt que de taper un coup franc direct, ils vont chercher à la jouer dans le paquet. Il y a une dimension collective, il y a une force collective qui se dégage de cette équipe, associée à une dimension physique de très haut niveau, parce que c'est vrai qu'ils sont très très bien préparés tout le temps, le Real. Qui fait qu'au final, ils arrivent à sauver le résultat. Puis, même si c'est un argument que j'utilise très peu en général, il y a un facteur expérience dans cette équipe. C'est qu'ils ont
histoire,
le même groupe.
Il le dit Aurélien Tchouaméni tout à l'heure.
Si vous prenez le groupe originel, Modric, Kroos, Carvajal, vous pouvez rajouter Courtois qui arrivait pas très longtemps derrière. Après, vous avez toute la génération Vinicius, Valverde, Rudiger. C'est-à-dire que les mecs sont en campagne européenne ensemble pour les plus anciens depuis 10 ans et pour les autres depuis 5-6 ans. C'est-à-dire que là, il y a une vraie expérience. Vous voyez, là, c'est pas Arsenal-Porto où on essaye de nous dire ils ont pas d'expérience alors que Porto,
Rudiger,
c'est des Vénézuéliens qui sont.
Rudiger, c'est 3 ans. Troisième saison, je crois.
Bon. Oui. Là, il y a un vrai bloc d'expérience. Ils savent comment se trouver ensemble.
Un dernier personnage de ce match quand même à aborder, c'est Harry Kane, hein, son 43e but. Alors il le marque sur penalty.
Magnifique.
Que penser de Harry Kane, Rémi?
Moi j'ai que du bien à penser.
Non, mais je crois quand même que
est à l'attaque.
Je crois que je le trouve très malheureux parce que là il va comme d'habitude il ne va rien gagner cette saison parce que là quand
Rémi,
même quand on voit.
Commencez les proverbes français, on ne vend pas la peau de l'ours. Hein?
Alors ben vous savez. Parce que quand vous voyez quand même les statistiques, c'est terrible.
Oui, il sera
c'est-à-dire
pas
qu'aujourd'hui,
on est
quand même.
Mais attendez, s'il met un doublé au Real Madrid la semaine prochaine. Non, mais c'est aujourd'hui, il a été, en tout cas, quand il devait tirer son pénalty justement contre Lounine, on se dit, Lounine, avec ce qu'il a fait la semaine dernière, peut impressionner. Non.
Non, il n'a. Et d'ailleurs,
il
n'a pas. Généralement, il était fort. Généralement, il était fort, mais là, vraiment, il a envoyé Lounine balader. Donc, d'ailleurs, quand vous voyez son sang-froid, vous voyez comment est-ce qu'il a réussi à sortir par rapport à Erling Haaland. C'est là où vous comprenez quand même que Erling Haaland a de la. Il a encore beaucoup à apprendre. Parce que lui, il a réussi à décrocher. Lui, il a réussi à échapper parfois à la surveillance de Rudiger, même s'il n'a pas réussi à déborder Rudiger. Mais il faisait que Rudiger dézone. Et du coup, ça déséquilibrait la défense du Real Madrid. Ça donnait des brèches à une certaine période parce que Rudiger voulait absolument le marquer. Donc pour moi, aujourd'hui, quand on parle de Harry Kane, c'est pas par hasard qu'on se retrouve avec autant de buts, 43 buts en 43 matchs. Et surtout que les deux derniers matchs, je crois que les deux derniers matchs, c'est les trois derniers matchs, ça lui fait quand même 5 buts. Hein.
Et du coup, il a le même total de buts pour l'instant, toutes compétitions confondues, que Kylian Mbappé.
C'est le meilleur numéro 9 du monde.
Du monde.
Du monde.
C'est du moment.
Ah non, du monde. C'est le meilleur numéro 9 du monde.
Oui, du monde, du moment.
Mbappé, Vinicius sont des ailiers. Je pense qu'il est meilleur qu'Haaland. Je pense qu'il est devenu meilleur
Lewandowski.
C'est le meilleur numéro 9 du monde.
Et c'est
plus,
bien adapté, en tout cas, à la Bundesliga.
C'est ça, parce que
c'est incroyable.
C'est au-delà de s'adapter à la... Moi, je ne suis pas inquiet sur la... Vous savez, je ne vais pas être désagréable, mais si un garçon comme Anthony Modeste mettait 20 buts avec Cologne au Bundesliga, je n'étais pas inquiet sur les statistiques d'Harry Kane. Ce qui était plus inquiétant, c'était l'intégration dans le vestiaire bavarois, qui est toujours un vestiaire spécial. Pour les joueurs et pour les entraîneurs, il y en a beaucoup qui ont plein de talents qui ne s'y sont pas imposés. Sadio Mané en est la preuve. Donc ce que fait Kane cette saison est absolument fantastique. Il devrait normalement, si c'était pas un truc à moitié corrompu, être dans les 5 du Ballon d'Or tous les ans. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde.
Eh bien voilà, pour ce qui est de ce match aller, de cette demi-finale aller, et on aura le temps de parler et d'imaginer la demi-finale retour. On continue parce que, vous le savez, il y a une autre demi-finale demain de cette Ligue des Champions, Borussia Dortmund-PSG. Ce sera donc demain soir en Allemagne, un peu plus au nord qu'à Munich, dans le bassin minier industriel de la Ruhr, à l'ombre du Westfalenstadion. Ils sont arrivés à Dortmund, tant les joueurs du Paris Saint-Germain que leurs supporters, ou même que notre envoyé spécial, Cédric De Oliveira. Alors lui, il a pris un train qui n'était pas tout à fait à grande vitesse, mais il est quand même sur place.
Il a pris un train qui n'était pas tout à fait à l'heure. J'allais dire, oui, il a pris un train, quoi. C'est la SNCF, quoi. Tout
non, non, mais c'était peut-être pas la SNCF, c'était peut-être un train allemand. Bonsoir, Cédric De Oliveira.
Bonsoir, les amis.
Bonsoir.
Bonsoir, monsieur.
Alors, c'était un TGV français ou pas?
Non, c'était un TGV. Comment vous dire ça, un TGV vous savez, en Allemagne, pour aller, il faut parfois prendre plusieurs compagnies. Donc, j'ai envie de dire que c'était plutôt une solidarité européenne. Mais voilà, c'est assez mouvementé parfois pour rejoindre certaines villes d'Allemagne. Donc voilà, un petit peu de retard, mais on a bien atterri dans cette ville de Dortmund où demain il y aura une demi-finale de Ligue des Champions.
Alors Cédric, justement, cette ville qui est, on le sait, derrière, c'est jaune et noir, hein, cette équipe de Bundesliga. Bon, cette année, elle est pas très très bien classée, elle a pas fait un super championnat, mais par contre pour ce qui est de la scène européenne, c'est un peu comme le Bayern Munich, très bonne saison. Elle dort peut-être à 7h, mais est-ce qu'on sent déjà qu'on est à la veille d'une demi-finale de Ligue des Champions, et ça lui est pas arrivé depuis longtemps?
Alors, j'irai pas jusque là, hein, mais plutôt là, ce soir, c'était plutôt animé parce qu'il y avait le match du Bayern. Et on aime le foot à Dortmund et on n'était pas forcément supporters du Bayern Munich, notamment quand Vinicius a marqué. Voilà, autour de là où on est situé, il y avait quelques cafés ouverts et quelques supporters qui regardaient le match. Et voilà, on était plutôt fans du Real Madrid parce qu'on n'aime pas beaucoup le Bayern en Allemagne, hein, à part à Munich. Donc voilà, mais on sent cette ambiance de Ligue des Champions. Après, très peu de supporters parisiens. Moi, j'en ai pas croisé beaucoup. Ils vont arriver plutôt dans la journée de demain. On attend plus de 4000 supporters parisiens. Voilà, mais je pense que ça va gentiment monter là pendant les 24 prochaines heures.
Alors, les conférences de presse d'avant-match, comme on dit, ont eu lieu. L'entraîneur des Parisiens, Luis Enrique, a parlé et vous l'avez écouté sérieusement et il avait l'air plutôt serein.
Je crois qu'on est au même point que les autres. Pour les 4 équipes qualifiées, tout autre résultat qu'une qualification pour la finale serait une déception. De notre côté, on est dans un processus d'amélioration. On est au début du projet. Il reste un mois pour terminer la saison et on est encore en lice pour tout remporter. Il va falloir gérer nos émotions, ne pas être rattrapé par la pression, être ambitieux. Il ne faut pas non plus voir la pression comme une menace.
Cédric, on se souvient d'un entraîneur du Paris Saint-Germain assez confiant avant le retour de Barcelone, hein, il y a une quinzaine de jours. Est-ce qu'il avait l'air d'être dans le même état de confiance, Luis Enrique, envers son groupe ?
Ah oui, complètement. Ah bah, de toute façon, vous le savez, hein, on l'a dit tout au long de la saison, l'humilité, ce n'est pas vraiment ce qui le caractérise, Luis Enrique. Mais là, c'est vrai que forcément, cette qualification face au FC Barcelone, elle lui a donné un peu de crédit à Luis Enrique encore plus. Puis depuis, son PSG a été champion de France. Donc là, c'est vrai que il essaye d'insuffler ça à son groupe. Et on l'avait dit déjà après la qualification face à Barcelone, mais il y a quand même une ambiance un petit peu différente autour de ce club parisien par rapport aux saisons précédentes. Et c'est vrai que le PSG, sur le papier, est considéré comme favori, puisque vous le disiez, le Borussia ne fait pas une très très bonne saison, en tout cas en Bundesliga. Maintenant, voilà, il essaye d'évacuer cette pression. C'est que, voilà, il aime bien, en tout cas en conférence de presse, il a notamment un peu taclé la presse en disant « Oh, de toute façon, vous n'y connaissez rien, vous les journalistes, en ce qui concerne le football ». Voilà, c'est un petit peu son jeu à Luis Enrique. Il essaye voilà, de dédramatiser la situation et de préparer sereinement son groupe. Mmh.
Luis Enrique, avec cette qualification, avec le titre de champion de France, avec la perspective aussi de cette finale de Coupe de France, il est devenu tout d'un coup, il fait la une du journal, hein, évidemment, aujourd'hui, il est devenu un peu la vedette de cette équipe parisienne, Naïm.
Bah, la vedette.
Le regard a changé en quelques jours,
mais
on va dire.
En fait, les gens ont. Alors, le PSG ne fait pas un début de saison fantastique et à ce moment-là, on a le droit d'émettre des critiques sur les changements qu'il fait, sur le recrutement de certains joueurs qui ne se justifiaient pas. On peut émettre des critiques sur tout ça. Ce qui a surtout faussé l'image des Français vis-à-vis de Luis Enrique en France, c'est sa relation avec Mbappé. Mm-hmm. C'est le fait qu'il est d'abord mis sur le banc en début de saison pour pouvoir le. Tant que cette histoire de transfert n'était pas réglée et que dorénavant, il le sort régulièrement ou il le met sur le banc pour pouvoir apprendre à jouer sans lui. Donc c'est ça qui a un peu faussé les choses. Mais ça reste un entraîneur de haut niveau et ce qu'il a fait à Barcelone le prouve sans problème.
Rémi, cette rencontre de demain soir, comment la voyez-vous ?
Première des choses, le championnat allemand nous prouve qu'il est très très bon, très très fort. Parce que là,
deux clubs allemands en demi-finale.
Lopez y est. Nous sommes en train de parler des demi-finales. Mmh. Et c'est le cinquième de la Bundesliga qui va jouer contre le premier du championnat français. Sachant que ce premier, ce cinquième a déjà perdu 6 matchs et a fait peut-être ceci et cela. Donc pour moi, je trouve que ce sera un match un peu difficile. Mais je crois que le PSG a des arguments, surtout offensifs, pour mettre à mal cette équipe qui est joueuse. Mmh. Alors comme elle est très joueuse... Elle aussi vaporeuse et poreuse.
Luis Enrique a promis beaucoup de buts d'ailleurs demain soir. Dernière petite question, Cédric de Oliveira. Est-ce qu'on va préparer des feux d'artifice pour empêcher les Parisiens de dormir cette nuit?
Ben peut-être. Hein. Je ne sais pas
Barcelone.
Si on est aussi, comment dire, blagueur ou sournois à Dortmund qu'à Barcelone. C'est vrai que les supporters du Barça étaient allés un petit peu embêter les Parisiens à leur hôtel. Oh, je ne sais pas, on est peut-être. En tout cas, ça leur avait servi aux Parisiens d'avoir cette nuit agitée.
Finalement.
Donc peut-être que là, il y aura la même chose. En tout cas, on leur souhaite de passer une bonne nuit. On leur souhaite. De nous faire une demi-finale ainsi qu'au Borussia, mais comme vous l'avez dit, Luis Enrique a promis du spectacle. C'est vrai que voilà, avec deux équipes qui ont mis 4 buts notamment en demi-finale retour, on devrait en voir
quelques-uns
demain. Une très très belle demi-finale.
Ouais. Merci beaucoup Cédric de Oliveira, on se retrouve demain évidemment dans Radio Foot International. Bonne nuit à vous. Et à demain. Gute Nacht, ou je ne sais plus comment on dit en allemand.
Ça n'est pas de folie, on dit.
Merci. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir été en direct avec nous. Oui, Guten Tag. On continue dans Radio Foot International dans cette émission. Après la Ligue des Champions, eh bien, il y a la Ligue des Championnes.
Ce ballon pour le pied gauche de Bacha, la frappe. Et le but de Selma Bacha. Première frappe cadrée, troisième minute de jeu et le premier but pour l'OL. Avec Dumornay, le but d'un match Dumornay. C'est l'OL qui passe devant. L'OL retrouve la finale de la Ligue des Champions et ce pour la 11e. De son histoire pour aller défier les championnes d'Europe, le Barça.
Et oui, sur un autre air, hein, puisque ces championnes, cette Ligue des Champions a son propre hymne. Voici donc l'OL en finale. Encore l'OL, pourrait-on dire, pour ce club qui disputera sa 11e finale de cette compétition, dont 8 victorieuses. Elles retrouveront encore le Barça pour la 3e fois. Ça sera toujours en territoire espagnol, mais ça ne sera pas en terre catalane. Ça sera au Pays Basque, Bilbao. À Bilbao, à San Mamés. Alors l'équipe de Lyon a dû batailler pour se hisser en finale, car le PSG a été difficile à éliminer. Elle allait Lyon, victoire 3-2, avec un match de dingue, parce qu'elle marque 3 buts en 6 minutes. Ouais. Et on se dit, mais comment le PSG a pu encaisser ça? Et puis là, elles ont gagné au Parc sur le score de 2-1, mais c'était aussi à la 81e minute. Ces deux équipes qui ont une force assez similaire quand même en Ligue des Champions, Salim.
Oui, même si, et cette année on l'a vu en France d'ailleurs, Lyon a quand même montré beaucoup plus d'assurance. Parce que ces dernières saisons, et ça avait été souvent ça, on avait vu un rapproché du PSG sur l'Olympique Lyonnais, notamment lorsque Sonia Bonpastor est arrivée à la tête de Lyon. On a senti qu'elle voulait remettre certaines choses en place, une autre manière, une autre politique à Lyon, avec notamment une montée de la formation lyonnaise. Et c'est pour ça que le PSG en a profité pour faire un rapproché, pour parfois même passer devant. Mais là, autant les scores sont serrés, autant dans le jeu, et notamment sur le match retour, on a quand même vu une équipe lyonnaise qui était dans la maîtrise, malgré tout. Parce que c'était au PSG de gagner, au final, c'était au PSG d'attaquer. Lyon n'avait qu'à attendre, au final, et Lyon a réussi à en profiter. Donc, sur les deux rencontres, sincèrement, la qualif de Lyon est loin d'être volée.
C'était pas acquis, mais c'est vrai que
c'était pas acquis. Je pense que Paris peut avoir des regrets, notamment lors de ce match aller où tu gagnes 2-0 et tu prends 3 buts en 6 minutes. Bah, c'est où la différence a été faite. Et puis, à l'expérience aussi des joueuses, hein, quand on voit l'équipe lyonnaise, honnêtement, on sent qu'il y a une certaine forme de maturité.
Et dans les moments clés,
on parlait de ces buts qu'elle marque quasiment dans le money time de chaque match. Ça montre la qualité et surtout le mental qu'a ces joueuses-là de toujours faire la différence dans ces moments clés. Et je trouve que c'est où Paris a pêché, notamment sur ce match retour, même si, encore une fois, pour moi, Paris se rapproche une fois de plus de Lyon, mais il y a encore quand même quelques étages.
Salim, les Lyonnaises, quand même, on avait l'impression que tout ce qui se passait autour du club, en plus, elles ont été détachées de cette Olympique Lyonnais. Désormais, elles sont un peu satellisées, elles ont été indépendantisées, elles appartiennent à un autre investisseur. Bon, on a un Américain là, qui détricote un peu tout ce qu'avait fait Jean-Michel Aulas jusqu'à présent. Mais on avait la sensation qu'il y avait une usure du côté des Lyonnaises. On voit qu'il y a quand même, je dirais, toujours les mêmes un peu que sont Wendy Renard, que sont Le Sommer, que sont toutes ces joueuses importantes internationales, mais qu'il y avait une usure. Et là, peut-être qu'il y a un retour d'énergie.
Justement, en fait, l'usure que vous évoquez, on l'a vu par le passé, dans un passé récent, justement, où Lyon n'arrivait pas à atteindre la finale ou la demi-finale simplement de Ligue des Champions, était même battue parfois en championnat. Je rappelle que cette année, sur les 21 premières journées, il n'y a pas eu de défaite en championnat pour le coup. Donc au moins, Lyon a réussi à faire ce qu'il fallait justement dans ce championnat. Et j'insiste, il y a eu plusieurs éléments clés.
Au-dessus des autres que, bon.
Mais par le passé, et dans un passé récent, ça n'a pas été le cas. Parce que vous avez évoqué ce changement de propriétaire, il y a un changement de coach, il y a un changement de politique. Alors attention, il y a certaines joueuses qui sont là et qui sont des stars, qui touchent de très gros salaires, qui sont toujours présentes, mais maintenant, Lyon veut intégrer de plus en plus ces jeunes, parce que le bassin Rhône-Alpin est un bassin où il y a un centre de formation de dingue. Il y a énormément de joueuses qui montent vraiment dans cette région-là. C'est peut-être la région où il y en a le plus, hein, pour le coup. Et dans cette région-là, on les prend petit à petit à Lyon, et très rapidement d'ailleurs, pour les intégrer à l'équipe première. Et ça, par rapport à un passé pas si lointain, ça change, parce que là où il n'y a pas si longtemps, on avait très peu de Françaises au final dans le 11. Mais là, de plus en plus dans le groupe, alors pas forcément que sur le 11, mais dans le groupe au moins, ne serait-ce que sur le banc, on a de plus en plus de Françaises. Lyon pense autrement, Lyon pense, entre guillemets, bleu-blanc-rouge. J'exagère un peu, mais pense plus français et ça prend du temps, forcément, ce centre de formation. C'est pour ça que sur les 2-3 dernières saisons, vous avez cette sensation d'usure qui peut-être, ça paye en ce moment et ça paiera encore plus peut-être à venir, mais l'usure est moins présente.
11 finales de Ligue des Champions, même s'il y a beaucoup d'inégalités entre les championnats et les clubs, et c'est ce qui peut-être minimise parfois les exploits dans le football féminin, mais Benjamin, c'est quand même énorme, non ? 11 finales de Ligue des Champions.
Bah oui, c'est énorme. Moi, je pense qu'il faut surtout souligner et remercier même Jean-Michel Aulas, mmh. parce que c'est grâce à lui, c'est lui qui a porté ce football féminin-là jusqu'à haut, qui a investi pour que Lyon puisse avoir une équipe féminine. Et aujourd'hui, il est récompensé. Elles sont récompensées par ce travail-là. Salim le disait à juste titre, c'est bien d'avoir aussi l'idée d'investir dans la formation, de faire progresser les jeunes joueuses et de les faire goûter à ce championnat-là et puis à des compétitions européennes. Et je pense aussi qu'ils ont aussi pris, ils ont pris Diani au PSG.
Absolument.
Qui apporte un plus aussi à cette équipe. Donc, en plus, il y a l'absence de Castellino qui a été blessé pendant un long moment, qui revient aussi au bon moment.
Absolument.
À un moment donné où ils vont jouer la finale de la Champions League, je crois que cette équipe a des arguments à faire valoir contre Barcelone.
Alors, Carlos.
Là, je peux.
Il y a des filles en face.
Oui, je ne peux pas dire grand-chose, sauf que le Barça, il a tout gagné cette année. Au moins l'Espagne, c'est l'équipe terrible.
Revenons juste sur le scénario des demi-finales.
Incroyable.
Ce qui est incroyable, c'est que le Barça perd à domicile sur le score de 1-0, mais ça compte plus double non plus chez les filles, donc c'est quand même pareil UEFA. Et elles partent à Chelsea, qui est une des équipes aussi montantes en Europe, et elles réussissent à aller arracher leur qualification à Chelsea. C'est quand même un exploit, là.
Exceptionnel.
C'est un exploit, mais c'est une équipe qui a beaucoup de force à l'intérieur. Il ne faut pas oublier que la colonne vertébrale, c'est l'équipe championne du monde, d'abord. D'accord.
Le football féminin espagnol, on commence à le connaître.
Voilà, le foot espagnol féminin, c'est vraiment, il est en état de grâce. Maintenant, c'est vraiment quelque chose d'impressionnant.
Je précise, en fait, c'est vrai que ce match retour, elles ont marqué très rapidement pour égaliser sur l'ensemble des deux matchs. En plus, il y a eu un rouge très rapide aussi à Chelsea, donc en supériorité numérique, elles ont réussi à marquer ce deuxième but. Mais le Barça actuel me fait de plus en plus penser au Lyon qui trustait les Ligues des Champions il y a quelques années. Je veux dire par là où par le passé le Barça était entre guillemets que espagnol, de plus en plus d'étrangères viennent justement parce que le Barça fait de plus en plus, ou récupère de plus en plus ces grandes joueuses scandinaves, anglaises, et Lucie Bronze qui est arrivée à Barcelone. Donc le Barça est en train de faire ce que Lyon a fait par le passé. Alors vous allez me dire, ça a marché puisque Lyon on a gagné plusieurs de suite. Est-ce que le Barça le fera aussi au détriment de ces Espagnols, parce que ça va compter aussi. C'est ce qu'on a souvent critiqué auprès de Lyon et même du PSG, c'est d'attirer ces stars et au final l'équipe nationale n'en bénéficiait pas. Alors vous allez me dire, l'Espagne a gagné la dernière Coupe du Monde, mais il n'y avait pas que des Barcelonaises, il y avait une grande colonne barcelonaise, mais quand même, si maintenant vous commencez à faire jouer les étrangères et plus les Espagnols, est-ce que le niveau de l'équipe nationale va baisser ou pas? Ça sera l'une des interrogations à venir dans les mois et les années à venir.
C'est Benjamin qui fait les pronostics, donc et pas moi.
Alors Benjamin.
J'aimerais bien une victoire de Lyon, mais je pense que Barcelone va gagner.
Elles vont jouer en Espagne en plus.
Ouais.
C'est peut-être un petit plus qui peut aider.
Plus,
mais
oui.
Ouais.
Oui, c'est un gros plus.
Mais c'est leur troisième confrontation.
Ouais, c'est ça.
Pour l'instant, les Lyon avaient toujours gagné.
Ouais.
Et c'est leur quatrième finale, je crois, au Barça. Donc c'est vraiment...
C'est ces clubs-là. Hein. Et les Barça, qui économiquement,
il va pas trop bien.
Il ne passe pas par un bon moment.
Et ça coûte moins cher le football féminin.
Oui, mais même si ça coûte un petit peu moins cher, c'est vraiment... équipe compétitive.
Elles sont moins payées, les filles, en général.
Ouais.
Hein, n'est-ce pas? En tout cas, ça sera le 25 mai prochain, cette finale de la Ligue des Championnes. Celle qui a inscrit le but des Parisiennes dimanche après-midi en demi-finale, elle s'appelle Tabitha Shawinga. Elle vient d'être désignée dans les récompenses annuelles meilleure joueuse du championnat de France féminin. Elle est née au Malawi. Elle est prêtée pour l'instant au Paris Saint-Germain. Elle vient de Chine, du club de Wuhan,
Wuhan.
Elle se retrouve dans cette équipe donc à ne pas trop savoir où atterrir l'année prochaine. Mais pour l'instant, elles ont à jouer la Coupe de France. La finale de la Coupe de France, ça sera le 4 mai contre Fleury. Exactement, samedi. Et puis, il y a ces play-offs, ces tournois
finales.
Mais théoriquement, quand même, le Paris Saint-Germain devrait pouvoir la conserver.
Absolument.
Elle a envie, apparemment.
Je pense qu'elle s'éclate ici. Et à un moment donné, quand on a bougé, comme elle a beaucoup bougé, on a envie quand même de se stabiliser.
Ouais, absolument.
Elle va être à Paris, dans un bon club, avec un bon projet. Et puis, avec des bonnes joueuses, comme Katoto, quand elle retrouvera son niveau.
Totalement.
Je pense que les deux devant,
totalement,
ça peut faire très
c'est
mal.
C'est vrai.
Je ne pense pas que ce soit un problème de l'argent, non?
Non, je ne pense pas.
C'est un plus avec tout ce qu'ils vont toucher avec Mbappé, c'est des pouvoirs.
Et c'est la fin de cette deuxième édition de Radio Foot International. Merci beaucoup Naïm Moniol. Merci à Rémi Ngono. 2-2 entre le Bayern et le Real ce soir.